Kilimissiou, Gardarem la Terre, sur les ondes de Radio Albigès. Aujourd'hui, diffusion des interviews réalisées le jeudi 12 avril 2018 à l'occasion de la 5e journée de la biodiversité qui s'est déroulée sur le campus Albi-Fontlabour. Dans une seconde partie d'émission, on aura le plaisir de retrouver William Guittard de l'asso Libertree. William Guittard est éducateur de grimpes d'arbres. Mais tout de suite, on a le plaisir de retrouver Aurel Johnny, spécialiste et photographe du Grand Requin Blanc.
Bonjour Radio Albigès, comment allez-vous ?
Très bien, puisqu'on arrive à la fin de cette belle journée ensoleillée, mais rude journée puisqu'on a rencontré plein d'acteurs de la biodiversité. Et on a le plaisir de finir, j'espère, en voyageant avec vous, monsieur Aurel Johnny, puisque vous avez présenté une conférence sur la thématique « Comprendre et préserver le grand requin blanc », l'occasion de voyager, d'aller s'aérer. Alors, comment ça s'est passé pour vous ?
Eh bien, ça s'est très très bien passé. Et puis, j'ai le plaisir de vous faire voyager en Afrique du Sud, notamment à False Bay, où se situe Seal Island, où on trouve en fait le comportement endémique du requin blanc qui s'appelle le shark brushing, qu'on voit donc sauter au-dessus de l'eau pour la chasse des otaries, pardon. Et c'est un spectacle naturel, voilà, très très impressionnant. Et je suis tombé amoureux en fait de ce lieu parce que ça respire, ça foisonne la vie, les odeurs, les levées de soleil, les requins blancs, les baleines, les dauphins. Et je me sens très à l'aise, voilà, dans ce pays-là et en particulier dans la cage à prendre des photos du requin blanc. Voilà.
Comment on en arrive à aller se mettre dans une cage pour aller prendre des photos d'un grand requin blanc ?
Ouais, est-ce que je suis un petit peu fou ? Je pense pas. Mais à titre de passionné, mon rêve le plus cher, j'aurais souhaité en fait devenir océanographe quand j'étais un peu plus jeune. Et les aléas de la vie ont fait que j'étais électricien. Et il y a une dizaine d'années, les aléas de la vie ont fait que j'ai pris l'initiative de partir à l'étranger. Dans un premier temps, en Nouvelle-Zélande pour apprendre l'anglais. J'avais déjà fait un premier voyage en Afrique du Sud, donc en 2008, pour voir comment ça se passait. Et de là, j'ai demandé en fait aux personnes qui s'occupaient en fait du tour opérateur, qui ont la licence pour interagir avec le requin blanc, comment je pouvais m'immiscer en fait dans le cercle du requin blanc. Je rentre en France, l'idée à passe, parce qu'à aucun moment donné, je me serais senti capable de pouvoir tout quitter comme ça pour aller prendre des photos du requin blanc. Et les aléas de la vie ont fait que j'ai tout laissé. J'ai tout quitté, j'ai pris un sac, je suis parti travailler au port d'Auckland pendant un an pour parfaire mon anglais. Je suis resté en contact en Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande a recontacté l'Afrique du Sud pour que moi je puisse retravailler, reprendre de la photographie sur pas mal de temps en Afrique du Sud. Voilà.
Un beau parcours improvisé.
Oui, le parcours de la vie, les rencontres ont fait que ça s'est décanté et j'ai la chance de pouvoir expliquer le travail qui a été effectué en Afrique du Sud aujourd'hui pour cette 5e journée de biodiversité. Donc oui, une petite victoire, oui, j'en suis très content.
Le grand requin blanc qui a été donc mis à la télévision sur le grand écran via les films qu'on connaît. Donc c'est un animal que l'on connaît, nous, albigeois, souvent que par la télé, l'écran. Un animal qui nous fait peur, qui nous fait cauchemarder quand on est petit après avoir regardé ce film. Mais pour vous, c'est un animal qui vous fait rêver. Pourquoi ?
Je rêve de faire comprendre aux gens que ce n'est pas un mangeur d'hommes, comme on essaye en fait de lui faire passer cette réputation-là, et je ne suis pas d'accord, puisque ça reste un animal sauvage, et que lui, l'homme, en fait, ça ne l'intéresse absolument pas. Donc à travers ce programme-là, le plaisir que j'ai pendant les expos... Et les débats sur la sauvegarde du requin blanc, c'est de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire de dire la vérité et que un requin blanc reste sauvage, comme je viens de dire, mais très sociable, je serais tendu aussi, parce que s'il avait vraiment envie de nous croquer, il y aurait plus que 5 à 10 personnes tuées à travers le monde. Donc sur les 10 morts à peu près hein, par an, on impute ça au requin blanc, alors que lui, le requin blanc, le dernier mort en fait qu'il a fait, c'est 2011. Donc restituer la vérité, oui.
Et faire comprendre aussi que c'est important de préserver le grand requin blanc.
Puisque, bien sûr.
Voilà,
oui.
On va pas dire qu'il est en voie d'extinction,
mais si, il en reste 4000 dans les océans. Voilà, à la louche, hein. Mais par rapport aux données qu'on a, peut-être 4500, 3500, 5000 peut-être, mais c'est dans ces eaux-là. Et c'est une espèce en danger critique d'extinction, malgré les mesures préventives de protection qu'il y a dans certains pays, c'est-à-dire l'Australie, l'Afrique du Sud, le Mexique, il y a pas longtemps. Ben, faut bien se dire qu'il y a toujours des navires chinois qui sont très fans de la soupe aux ailerons de requin, qui sont entre les deux pays, et là le requin blanc n'est pas protégé. On parle du requin blanc, mais ce sont tous les requins et c'est toute l'espèce qui est, c'est toutes les espèces qui vivent dans les océans qui sont menacées. Et si on arrive à défendre le requin blanc, à ce que les gens se disent, on va essayer de le comprendre un petit peu mieux, ils comprendront plus les autres espèces animales. Ça, je pense que c'est une logique. Si on arrive à avoir un regard différent sur le requin blanc, on aimera beaucoup plus en fait la vie qu'il y a dans les océans.
Donc c'est ce que vous faites avec votre conférence « Comprendre et préserver le grand requin blanc » qui est aussi jumelé à une exposition photo qu'on a pu voir au campus Fond-Labour.
Exact. Vous avez aimé ?
Oui. J'ai aimé. Malheureusement, j'ai moins aimé justement le petit panneau explicatif sur justement la chasse aux requins.
Et, le shark finning.
Voilà, ouais. Ce qui se passe avec les ailerons de requins.
Et oui, je me bats sur plusieurs fronts avec ça. Donc j'essaye de l'expliquer à mon humble niveau à travers les expositions. Comme aujourd'hui où j'ai reçu des petits bambins qui étaient vraiment excellents et qui voulaient protéger le requin blanc à la fin de la petite expo. Donc pour moi, voilà, c'est très important. Voilà, ça passe par la génération à venir. Les mesures de protection, voilà, l'éducation, c'est très très important pour les années à venir. Ouais.
Vous êtes un militant quotidien donc pour préserver le grand requin blanc et je crois. Peut-être que ça vous embête, militant.
Je sais pas. Peut-être que j'ai eu une bonne conscience en me disant, en fait, il faut limiter l'impact qu'on a aussi sur Terre, parce qu'on est à plus de 7 milliards aujourd'hui. J'étais ancré avec un travail quotidien aussi, où il y a une époque j'avais quand même un petit peu d'argent, et je me suis aperçu qu'en fait, à part le mode de consommation qu'on nous proposait, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire aussi. Par rapport à ça, j'ai choisi de vivre simplement, c'est-à-dire que depuis que j'ai entamé en fait ce programme-là, j'ai plus de télé, je m'intéresse beaucoup plus en fait à ce qu'il y a autour de moi, je fais attention à mon mode de consommation, que ça soit voilà sur la vie de tous les jours, c'est-à-dire la nourriture par exemple, la gestion des déchets, et donc de là voilà j'ai essayé de m'intéresser à savoir ce que je pouvais apporter de bien entre guillemets. À essayer de faire comprendre qu'on prend pas le bon chemin, voilà, pour les années à venir. Donc, pour moi, c'est très important, oui.
Donc, c'est une philosophie de vie au quotidien chez vous, mais aussi via des associations, des structures.
Oui, donc, en fait, les photos, par exemple, servent pour des étudiants à travers le monde. Il y en a à peu près une dizaine voilà qui m'ont demandé de l'autorisation de pouvoir exploiter les photos pour qu'ils puissent rendre une maîtrise par exemple sur le requin blanc. Mais bien au contraire, utilisez les photos à bon escient. Oui, par rapport aux autres associations, oui, j'aide une association qui s'appelle la sauvegarde des requins en fait, qui est basée près de Paris, à qui je donne droit en fait d'exploiter les photos aussi, mais elle me demande quand même, mais bon, c'est toujours oui, hein. J'essaye de lui trouver en fait des adhérents par rapport à cette association là. J'avais une association moi, voilà, je me suis retrouvé tout seul, donc voilà, elle n'existe plus, et je préfère en fait aider directement les assos par le biais en fait du plein pouvoir en fait du droit sur les photos. Et pour elles, comme elles n'ont pas de forcément de photos ou qui ont très très peu vu de requins à part dans les aquariums ou très très peu voyagé, ça leur permet en fait d'avoir un outil pédagogique.
Pour finir, on va retourner en Afrique du Sud, ouais, dans la cage, où vous prenez donc des photos de requins. Comment on se sent quand on plonge dans une cage pour aller prendre des photos de requins?
La première fois, je suis resté très très humble et la peur s'est transformée, je serais tenté de dire, en fascination. Et oui, j'ai appris, comme je disais à l'instant, à rester humble et la peur, oui, je l'ai transformée avec une joie de gosse, c'est-à-dire que même derrière mon masque, les yeux, ils étaient écarquillés parce que je trouvais ça mais vraiment sublime. Et c'est vraiment un très très bel animal qui est en train de disparaître dans l'indifférence totale. Et non, j'ai trouvé la grâce. Mais vraiment, et là où on peut trouver les requins blancs en Afrique du Sud, ça foisonne de vie. Il n'y a pas que les requins blancs, il y a des orques, il y a des baleines, il y a des dauphins, il y a des pingouins, il y a des superbes dorades de coryphènes aussi, c'est magnifique. Et comme je vous le disais là, il y a 5-10 minutes, c'est si on arrive à protéger le requin blanc, bon, on arrivera à protéger tout ça.
Monsieur Aurel Johnny, grand merci per tout à coup, comme on dit chez nous, en occitan. Pour finir, peut-être un contact à laisser si on veut retrouver vos actualités ou
oui,
vous
bien
contacter.
Sûr. Alors, il y a une page de Facebook qui s'appelle Grand Requin Blanc, comprendre et préserver. Donc j'actualise pratiquement tous les jours. Vous pouvez me contacter donc via cette page et ou sinon je peux vous laisser mon mail, donc efij@free.fr. efij@free.fr et avec grand plaisir que je vous recontacterai. Voilà, et puis merci à vous aussi, c'était sympa.
Merci bien, au revoir.
Au revoir.
Tout son brancat sous la zone de Radio Albitzès, Radio Albitzès, votre média collectif d'action locale. Aujourd'hui dans l'émission Gardarem la Terre, diffusion des interviews réalisées à l'occasion de la 5e journée de la biodiversité qui s'est déroulée le jeudi 12 avril 2018 au campus Albi Fontlabour. N'hésitez pas à retrouver ces émissions en podcast sur notre site le www.radioalbijazz.com. On termine la diffusion des interviews réalisées avec William Guitard, éducateur de grimpe d'arbres.
Radio Albijazz, installée à l'occasion de la 5e journée de la biodiversité sur le campus Albi Fontlabour. Et on a le plaisir de recevoir au micro William Guitard. William, bien le bonjour.
Oui, bonjour.
Tu es éducateur de grimpe d'arbres et tu viens de nous parler de Libertree, une asso qui est en lien aussi avec l'asso Plantes et Planètes qui est basée à Mont-Roc. On avait reçu en 2017 Nathalie Frossard qui était venue nous parler de cet asso. Et tu es en lien avec cet asso et l'asso Libertree qui propose de la grimpe d'arbres. Alors avant de présenter l'asso, est-ce que tu peux nous présenter toi ton parcours voilà, qui t'a apporté tout en haut des arbres?
Alors, moi, j'ai commencé par des études d'art plastique. Et puis, au bout de quelques années, grâce à un ami de lycée, j'ai découvert un petit peu fortuitement la grimpe d'arbres, alors que j'avais déjà grimpé aux arbres toute mon enfance, parce que j'avais la chance de vivre à côté de la forêt, avec des arbres même dans mon jardin. Et puis, quand j'ai découvert la grimpe d'arbres, je me suis aperçu que j'avais jamais vraiment grimpé dans les arbres, puisque les premières fois où j'ai grimpé, je me suis retrouvé à 30 mètres de haut, à la cime d'un grand épicéa. Et j'ai découvert toute la portée de ce qu'on pouvait ressentir en grimpant à la cime de grands arbres comme ça, quoi. Et donc, je me suis orienté. Et donc, depuis 2003, c'est ma profession.
Éducateur de grimpe d'arbres, puisque c'est officiellement une profession.
Voilà, depuis entre. C'est né en 89. À la base, ça s'appelait l'Acrobranche, dispensé par l'association des Acrobranchés en Ardèche, qui sont vraiment les créateurs du terme Acrobranche, qui se sont fait un peu spolier après leur nom, qui est tombé dans le domaine public. Et entre 89 et 2009, l'activité s'est développée essentiellement dans le cadre associatif. Et puis à partir de 2009, en fait, le ministère Jeunesse et Sport, avec qui on avait des contacts réguliers pour essayer de mettre un cadre à cette activité, nous a confié un petit peu le bébé. Et le syndicat national des grimpeurs en quatre ans dans les arbres, le SNGEA, est devenu organisme délégataire de la formation de grimpe d'arbres. Donc on est passé de l'acrobranche à la grimpe d'arbres, puisque c'était devenu quelque chose d'un peu tombé dans le domaine public. Et donc on a recréé un référentiel de compétences, puisqu'on était un petit peu les seuls à pouvoir avoir un recul nécessaire sur l'activité qu'on pratiquait déjà, enfin qui était pratiquée depuis une vingtaine d'années. Et à partir de 2009, on est devenu possesseur de cartes professionnelles d'éducateur de grimpe d'arbres, reconnu par le ministère Jeunesse et Sport, alors qu'avant, c'était un petit peu, on passait un petit peu entre les gouttes de la législation, quoi.
Alors, la grimpe d'arbres est aujourd'hui bien réglementée, encadrée et officialisée.
Officialisée, on est devenu officiel. Elle est répandue dans toute la France. Il y a à peu près une cinquantaine de structures en France qu'on peut retrouver sur le site internet ega.fr. Sur lequel on peut trouver une carte de France où il y a les différents... sur ce site-là, c'est pas les associations, mais les acteurs directement, adhérents du réseau. On peut retrouver les numéros de téléphone de chacun. Et donc, partout où on est en France, on peut trouver pas très loin une structure ou une personne qui pourra nous faire grimper dans les arbres.
On a tous monté dans les arbres, mais ce que vous proposez, c'est quand même assez différent. Qu'est-ce que vous proposez?
Alors, c'est la grimpe d'arbre, c'est un médium. En fait, c'est quand même un médium de sensibilisation à l'environnement. Après, chacun l'interprète et le décline aussi un petit peu à sa sauce. Les acteurs de ce réseau sont très cohérents dans leur démarche de respect des êtres vivants que sont les arbres, de sensibilisation à l'environnement et d'accueil de tous les publics, puisqu'on fait grimper aussi les personnes en situation de handicap. Il y a différentes associations qui se sont pas mal spécialisées dans cette grimpe tout public. Ce qui est le cas d'ailleurs de Libertree, qui existe, donc l'association dont je fais partie, qui est basée à La Landelle en Haute-Garonne, mais qui a une action dans le Tarn, dans l'Aude, ainsi qu'en Haute-Garonne. Et donc on fait grimper pas mal de jeunes qui sont dans des IME, mais aussi des adultes autistes, des personnes en fauteuil roulant, avec des montages de cordes assez simples. On arrive à les hisser à la cime des arbres, et donc eux forcément tirent un grand bénéfice quoi de ce voyage en arbosanteur.
Donc c'est le but aussi de l'assaut Libertree?
Ça fait partie des objectifs de l'association Libertree, de faire grimper vraiment tous les publics. C'est aussi bien les enfants, les adultes. On a des actions aussi sur des animations grand public, donc des fêtes du village. En fait, potentiellement, c'est ce qui est intéressant avec l'activité de grimpe d'arbres, c'est que partout où il y a des arbres et où on a l'autorisation, on peut organiser des animations et faire grimper vraiment tout type de public, même des gens qui sont en fauteuil roulant, des malentendants, des malvoyants. Ou ses grands-parents, s'ils en ont la motivation.
Comment ça se passe concrètement? On imagine ici, par exemple, au campus Fonlabour, qui est un beau parc arboré, qu'on aurait pu donc installer une activité de grimpe d'arbres.
Tout à fait, ouais, il y a des jolis arbres. Donc, il s'agit, nous, ce qu'on vise, c'est des arbres adultes ou jeunes adultes, donc 15, 20, 30, 40, 50 mètres. C'est à peu près les plus grands arbres qu'on peut trouver en France, mais qui sont très facilement accessibles même à des jeunes publics. Nous, pendant très longtemps, moi je viens d'Île-de-France, où on faisait grimper des séquoias de 40 mètres à des enfants de CM2 pour leur classe verte. Donc et l'activité vraiment, à partir du moment où on a l'autorisation, on peut s'installer dans n'importe quel type d'arbre.
Alors quand on entend grimpe, on pense escalade, j'imagine. Donc la grimpe d'arbre aussi utilise des techniques de l'escalade?
Alors pas tout à fait. La grimpe d'arbre, comme c'est une des dernières activités à cordes, a un peu pioché dans toutes les techniques et le matériel de toutes les activités à cordes. Notre matériel se rapproche plus de la taille et soin des arbres, donc de l'élagage. C'est des cordes spécifiques, qui ont peu d'élasticité, qui ont une plus grosse gaine qui résiste au frottement notamment, et à la résine. Nos baudriers ont tendance à être très confortables parce que on reste longtemps assis dans son baudrier en arbosanteur. Tout l'objectif de l'activité étant non pas la compétition d'arriver au plus vite à la cime des arbres, mais plutôt de profiter de ce voyage en arbosanteur et de pouvoir s'asseoir sur une branche. On installe souvent des hamacs, des filets, des plateformes. On fait aussi dormir les gens dans les arbres. Et pour revenir aux techniques, et on a certaines techniques ou matériels qui nous viennent aussi de la spéléo ou de l'escalade. Mais la grosse différence par rapport à l'escalade, notamment, qui pourrait quand même se rapprocher pas mal de l'activité, c'est qu'on grimpe des êtres vivants et aussi que notre grimpe est plus tridimensionnelle. Quand on est sur une paroi d'escalade, on est assez collé, assez proche de la paroi. Nous, on invite les gens qui grimpent dans les arbres avec nous à se déplacer sur les branches et à pouvoir se balader dans tout le houppier de l'arbre.
Tu as utilisé le terme arbrosanteur.
Ouais, c'est un néologisme et que j'aime beaucoup parce que ça illustre, selon moi, bien le. Voilà, cette sensation d'être dans le houppier de l'arbre, suspendu, et le temps se suspend aussi un petit peu. C'est vraiment ce titre-là, un voyage pour moi.
Qu'est-ce qu'on fait une fois arrivé dans l'arbre ?
Et on prend le temps de regarder ce qui se passe autour, on prend le temps aussi de voir ce qui se passe en nous. Souvent, on grimpe pas forcément à la cime d'un arbre assez grand d'un coup. Il faut du temps pour ça. Il y a certains paliers, comme on pourrait faire l'analogie aussi avec la plongée. C'est que chacun à son rythme peut aller à la cime d'un arbre, mais pas forcément en un seul coup. Donc il s'agit de prendre le temps. Et voilà, c'est pour ça qu'on installe aussi des hamacs ou des plateformes qui permettent de prendre du temps et de profiter de la vue. Moi qui suis aussi mélomane et musicien, j'emmène souvent des instruments en fait en l'air pour improviser des petites sessions musicales dans la ramure des arbres. On va organiser aussi sûrement bientôt des ateliers de peinture arboricole pour justement avoir un autre point de vue sur le paysage et pouvoir s'adonner à la création comme ça au-dessus du sol.
Alors, monter dans les arbres, c'est l'occasion aussi de se rendre compte de la biodiversité qui peuple ces arbres. Vous avez aussi une mission, un objectif de prévention, de sensibilisation à la biodiversité, à l'environnement.
Oui, tout à fait. C'est vraiment partie intégrante de notre mission et de l'objet de la plupart des associations de grimpe d'arbres. J'aime bien dire qu'on est acteur de la valorisation du patrimoine arboré. Puisque les arbres qu'on fait grimper dans les parcs de mairie ou même les forêts, les gens qui les ont grimpés les regarderont plus de la même façon. Donc à ce titre-là, je pense qu'on est vraiment acteur de cette valorisation du patrimoine arboré. Mais on essaye aussi, selon les publics, de façon plus ou moins approfondie, de parler de la vie de l'arbre et puis de ses occupants et de la biodiversité en général.
Alors justement, quand on part grimper un arbre, ou en premier l'équiper, j'imagine qu'on fait attention à qui le peuple, et peut-être que des fois ça va aussi modifier, en fait cet arbre on va pas le grimper, ou on va utiliser que cette partie pour pas déranger les espèces qui y vivent.
Ouais, a priori les arbres qui sont habités par exemple par des nids d'oiseaux, puisque quand il y a une édification, à partir du moment où il y a l'odeur de l'homme, la maman oiseau ne reviendra pas si elle sent l'odeur de l'homme, on essaie d'éviter, voilà, tout simplement d'équiper les arbres qui sont habités. Après, bien souvent on cohabite, ça nous arrive souvent d'avoir des écureuils qui nous rendent visite. Donc on essaie de se faire discret, on note simplement le bois sec des arbres qu'on va grimper pour des raisons de sécurité. Mais pas de façon drastique, et puisque le bois mort fait aussi partie de l'écosystème de l'arbre, que c'est aussi une niche écologique. Donc on est vraiment sur un nettoyage juste des branches qui pourraient être dangereuses, ce qui nous permet de grimper sans casque aussi. C'est une activité de pleine nature, un peu extrême, mais qui se pratique sans casque et qui permet, puisque quand on a un casque, on est un peu coupé du monde, quoi. Donc ça, nous, on nous oblige pas encore à mettre des casques et c'est finalement une bonne chose puisqu'on a sécurisé les arbres avant d'y faire grimper le public.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès pour une émission réalisée à l'occasion de la 5e journée de la biodiversité, le jeudi 12 avril au campus Albi Font-Labour. On est en compagnie de William Guittard, éducateur de grimpe d'arbres de l'asso Libertree. Libertree qui est en lien aussi avec l'association Plantes et Planètes basée à Mont-Roc. Comment s'est fait le lien ?
Alors le lien il s'est fait avec ma compagne qui est la responsable et la fondatrice de cette association qui travaille sur le lien entre les plantes et les hommes à travers le monde, puisqu'elle a réalisé plusieurs conférences regroupant des intervenants des 5 continents. Donc, bah voilà, notre fil vert, c'était la biodiversité, la sensibilisation à l'environnement. Et puis, bah nous venons de, ça fait 2 ans que nous sommes installés dans le Tarn. On était en région parisienne avant, et donc en venant ici, on a créé une antenne Tarn de l'association. Et un lieu qui est un lieu d'accueil et de personnes et de nos stages qui s'appelle Joya Viva, qui est notre lieu de vie aussi, qu'on veut ouvert au public pour tout un tas d'actions et de stages qui touchent à la fois les plantes, l'environnement, la création et où il y a souvent un petit peu de grimpe d'arbres.
Donc, pour retrouver plus d'informations sur l'asso Libertree et Plantes et Planètes, vous avez des sites internet. Donc, pour Libertree, c'est www.libertree.fr. Plantes et Planètes, je pense qu'on va le retrouver facilement sur internet aussi.
Oui.
Alors, avec Nathalie Frossa, on a parlé l'année dernière d'un arbre, il me semble, qui s'appelle le Palo Santo, qui est un arbre sacré du Pérou. C'est bien ça,
ouais, tout à fait,
William. J'imagine aussi que quand on monte des arbres, il y a un aspect toujours un peu sacré, important, quoi.
Bah, c'est des êtres vivants qui nous sont bien utiles dans notre vie de tous les jours pour stocker le dioxyde de carbone, pour abriter tout un panel de biodiversité qui est essentiel. On se rend pas forcément compte en ville ou même à la campagne. Et donc, à ce titre-là, ils méritent du respect, comme chaque être vivant. C'est pour ça que nous, dans l'éthique de la grimpe d'arbres, l'intervention, elle est vraiment minime. Et il s'agit aussi de pas trop grimper les mêmes arbres. C'est là qu'on se positionne à l'antithèse des parcours acrobatiques en hauteur, où c'est des arbres qui sont installés pendant une dizaine d'années, quinzaine d'années, jusqu'à ce que finalement ils finissent par dépérir. On est vraiment dans le nomadisme. Et puis il y a le côté aventure aussi, à grimper toujours des nouveaux arbres, dans des nouveaux lieux, avec des nouvelles personnes, en France ou à l'étranger. Et donc ça fait partie intégrante aussi de cette activité, de l'aventure de grimper dans les arbres.
Quelques souvenirs, quelques anecdotes à nous donner justement sur la grimpe d'arbres?
Eh ben, comme ça fait 15 ans que je fais de la grimpe d'arbres, j'en ai pas mal, mais les plus frappantes peut-être, c'était justement à l'étranger, à Madagascar, au nord-est de Madagascar, dans un endroit qui s'appelle Maswal, l'œil de la forêt, qui est une des derniers endroits sur Terre où la forêt primaire se jette dans la mer. Et donc, on faisait de la grimpe d'arbres au sein d'un lodge, qui avait une petite, une partie de forêt primaire, et c'est là que j'ai vu le plus grand nombre d'animaux étranges. À Madagascar, il y a beaucoup de lémuriens. Et donc le chant des lémuriens, des indri-indri, des lémuriens noirs et blancs, là, qui ont un chant qui ressemble aux baleines, quoi. Donc, là, c'était à la cime des arbres, l'impression d'être au fond des océans avec ces bruits de lémuriens qui ressemblaient à des baleines.
Mais très bien, merci bien en tout cas William. Pour terminer, un petit retour sur cette journée de la biodiversité à Fond-la-Bourg. C'est une belle rencontre avec un public, comment ça se passe pour vous?
C'était très sympa, il y avait déjà pas mal de structures, associations différentes. On était au même endroit que le syndicat des apiculteurs tarnais, donc nous qui sommes intéressés par avoir des ruches aussi sur notre lieu de vie, on a pris plein d'informations. Et puis au niveau du public, c'était chouette d'avoir des scolaires de tout âge qui posaient plein de questions, d'avoir rencontré aussi tout un tas d'adultes qui s'intéressent à la biodiversité, quoi. Donc on se sent moins seul et on sait qu'on est plein, en fait.
Merci bien, William. On se retrouve peut-être pour des prochains événements organisés par vos assos. On aura le plaisir d'annoncer les événements dans l'agenda. Grand merci Père Toutaco et Alcop Québec. Et clic et clac, l'émission est acabada. Vous avez écouté l'émission Gardarem la Terre avec 2 interviews réalisées à l'occasion de la 5e journée de la biodiversité qui s'est déroulée le jeudi 12 avril 2018 au campus Albi Fond-la-Bourg. Retrouvez ces émissions et les conférences enregistrées sur la page dédiée sur le www.radioalbiges.com.